Bonsoir. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a confirmé l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République. Une annonce saluée par la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, et certains dirigeants africains. De son côté, l'Union européenne dit prendre note de cette décision tout en reportant à une date ultérieure l'arrivée de sa délégation en RDC. Comment analyser cette situation? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa, également chercheur au centre d'études politiques de cette même université. Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Jeff Moudimbi, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur également, mais à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Et enfin, Oswald Bafounye Mbaka, analyste politique, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Oswald Bafounye Mbaka, que nous espérons avoir dans nos studios tout à l'heure. À tous donc, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
C'est désormais connu dans le pays de Patrice Lumumba. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a confirmé le week-end dernier l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République. Une annonce saluée par la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, et certains dirigeants étrangers, y compris africains. De son côté, l'Union africaine dit prendre note de cette décision tout en reportant à une date ultérieure l'arrivée de sa délégation en RDC. Le condensé des réactions à l'élection au nouveau président de la République démocratique du Congo avec Alain Hirung.
La SADC appelle toutes les parties prenantes à soutenir le président élu et son gouvernement dans le maintien de l'unité, de la paix et de la stabilité et réaliser le développement socio-économique en RDC. Elle espère un transfert pacifique du pouvoir au président élu, indique le communiqué signé par Ege Geingbog, président de la République de Namibie et président en exercice de la SADC. La SADC réitère la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et s'engage à soutenir le gouvernement de la RDC conformément au traité sur la SADC et au protocole de la SADC sur la coopération en matière de politique de défense et de sécurité. De son côté, l'Union africaine a reporté sa mission prévue lundi 21 janvier à Kinshasa en RDC. Dans un communiqué publié dimanche 20 janvier, elle dit avoir pris note de la proclamation de l'opposant Félix Tshisekedi comme président de la République par la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a félicité M. Félix Tshisekedi Tshilombo, indique un communiqué du département des relations internationales et de la coopération relayé par la présidence de la République ce 20 janvier. Le président Ramaphosa a appelé toutes les parties prenantes en RDC à respecter la décision de la Cour constitutionnelle et à s'engager à poursuivre sur la voie de la consolidation de la paix en unifiant le peuple congolais et en créant une vie meilleure pour tous.
Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa, également chercheur au centre d'études politiques de cette même université. Félicien Kabamba, Félix Tshisekedi est officiellement reconnu depuis le week-end comme nouveau président de la République, mais attend toujours d'être officiellement investi. Comment comprendre le stade dans lequel se trouve actuellement le nouvel élu? Y a-t-il à ce stade quelque chose qui peut empêcher Félix Tshisekedi d'être le cinquième président de la RDC?
Je voudrais d'abord dire que le passage d'un régime autoritaire qui a été consacré par l'ancien texte à un passage donc à un régime démocratique consacré par notre constitution, comme cela a été le cas dans beaucoup de pays, ce passage est généralement jalonné de beaucoup d'obstacles, de beaucoup de balbutiements. Donc le processus démocratique n'est pas quelque chose d'instantané, c'est donc un processus qui rencontre beaucoup de problèmes et donc il ne fallait pas s'attendre qu'on ait un processus électoral sans accrocs. Et nous avons donc la RDC caractérisée par le fait que ces institutions sont d'une très grande fragilité. Et donc, c'est dans ce contexte très particulier qu'il faut situer toutes les contestations électorales, tout ce qu'il y a comme revendication. Et donc, nous avons un grand travail à faire pour que la volonté du peuple devienne le véritable agrégat sociologique et juridique du pouvoir.
Alors, est-ce qu'en ce moment, Félix Tshisekedi court-il quelque chose qui l'empêcherait d'être réellement le président confirmé par la Cour constitutionnelle ou pas?
En réalité, quand vous êtes déjà confirmé par la Cour constitutionnelle, je crois que c'est la dernière institution, et vous savez également ces arrêts sont sans recours. Alors, parce que vous parlez de toutes ces réactions de la communauté internationale, en fait, il faut dire que la République démocratique du Congo, ou du moins son processus démocratique, a été soutenu par une pression qui venait d'abord de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et cette pression était plus le fait des acteurs au niveau interne de la société civile, l'Église catholique, vous avez les médias, vous avez en fait un ensemble d'acteurs qui, chacun à son niveau, faisaient un travail de pression. Et cette pression se conjuguait à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, notamment avec l'Occident, mais vous avez aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais alors, l'intervention de cela, bien sûr, il y a l'opposition qui considérait à l'époque qu'en fait, l'intervention de l'immixtion de l'Union africaine n'allait que dans le sens de soutenir le pouvoir en place. Alors, vous allez voir que maintenant, il y a une sorte de changement de paradigme, parce que la position prise par l'Union africaine ne va plus dans le sens de dire « Ok, nous apportons un soutien, comme le disait à l'époque l'opposition, mais on a là un changement de paradigme qu'il faut véritablement analyser et interpréter. Et je crois que c'est peut-être là...
Alors, puisque vous l'évoquez, alors il y a encore quelques jours, avant le prononcé de la Cour constitutionnelle, l'Union africaine a demandé que soit suspendu le prononcé de ce verdict. Comment faut-il comprendre cette communication de l'Union africaine?
Alors, il y a là une difficulté véritablement de se dire, est-ce que c'était une position concertée de tout le pays africain? Tant il est vrai qu'aujourd'hui on constate qu'il n'y a pas véritablement une identité de position, mais qu'il y a plutôt plusieurs positions. Par exemple, vous avez la SADC qui exprime un avis contraire et qui semble là se présenter comme étant un groupe, donc un groupe sous-régional qui a un avis différent de l'Union africaine.
Pourtant, ces mêmes présidents sont membres de l'Union africaine, la grande organisation de l'Afrique.
Ah, absolument, absolument. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, le gouvernement congolais, qui était déjà sous pression avant, avait pris une posture qui consiste à dire « Nous allons financer nos élections nous-mêmes, et certainement pour limiter, évidemment, les influences extérieures. » Mais qu'est-ce que nous constatons après avoir financé les élections? C'est qu'en fait, vous avez là une pluie de réactions, mais aussi des influences qui viennent à la fois de l'Occident, qui viennent aussi de la région, de la sous-région, et même des niveaux nationaux, eh bien, qui semble s'exercer sur la RDC.
Alors,
et
donc, professeur Félicien Kabamba, nous évoquions cette situation tout à l'heure. D'abord, la position de l'Union africaine avant le prononcé. Maintenant, après le prononcé, l'Union africaine communique toujours d'y prendre note de cette désignation officielle de Félix Tshisekedi comme président de la République. Comment comprendre concrètement le langage de l'Union africaine?
Bon, alors, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut avancer. Si vous vous situez sous l'angle de l'opinion publique nationale, l'opinion publique nationale, surtout qu'on a parlé de la visite du président de l'Union africaine,
président en exercice, le président Paul Kagame,
eh bien, pour l'opinion publique nationale, il s'agit là d'une manœuvre du Rwanda, et en particulier du président Paul Kagame, de participer, si vous voulez, au processus de légitimation du pouvoir en RDC, et donc pour plus tard continuer à avoir une influence sur le pouvoir qui va être mis en place en RDC.
Alors que jusqu'ici, il est resté quand même assez distant.
Exactement.
Et donc, de ce processus de la RDC. Faut-il aussi voir quelque chose, peut-être un lien avec d'autres positions internationales, la France, qui semblait avoir les mêmes positions que l'Union africaine avant le prononcer, vient de faire un communiqué pour dire, pour prendre note. Nous reviendrons sur ce concept de prendre note. C'est un concept qui existait peut-être déjà, mais qui dans les médias apparaît quand même assez subitement. La France prend note et manifeste même son désir de participer à l'investiture du nouveau président de la RDC.
Bon, alors là, je crois que la France a vu, si vous voulez, la dynamique au niveau régional et n'a pas l'intention d'aller à l'encontre de cette dynamique. Mais tout de suite, il faut aussi dire que à un moment donné de la pression extérieure, on a senti qu'il y avait une sorte d'identité de vue entre l'Angola, qui est un pays de la SADC, et la France, notamment avec la rencontre qui a eu lieu à Paris. On a senti qu'il y avait une sorte d'identité de vue. Mais avec l'évolution de choses, on s'est bien rendu compte qu'en fait, l'Angola semblait être plus distant au point de vue de prise de position de la France, et donc, de mon point de vue, la France ne pouvait que se rallier à la position prise par le pays de la région pour éviter évidemment d'être taxé des néocolonialistes.
Merci professeur Félicien Kabamba. Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi, quel sens alors peut avoir l'investiture du nouveau président et la prestation de serment qui va avec?
Bien, merci beaucoup pour la question que vous venez d'imposer. Je voudrais ici rappeler que le problème de l'élection relève vraiment de la politique interne ou même de la souveraineté interne de chaque État. Et je crois que le professeur Félicien l'a insinué. D'ailleurs, en passant, je le salue et lui présente et veut le meilleur. C'est un problème purement interne. Et la loi électorale en RDC dit ceci: lorsque les élections sont organisées, l'organe chargé de l'organisation de ces élections, à savoir la CENI, proclame les résultats provisoires. Et les résultats définitifs sont prononcés par la Cour constitutionnelle après avoir réglé les problèmes contentieux. Et je pense que à ce niveau-là, le processus, je peux me permettre de dire qu'il est clos, parce que la dernière instance qui devait prononcer les élections et quoi les résultats législatifs, les résultats définitifs, l'a déjà fait.
Alors, à quoi servent l'investiture, professeur? À quoi servent l'investiture et la prestation de serment des présidents?
Bon, l'investiture ainsi que sa prestation de serment font partie de ce que nous pouvons appeler en sciences politiques comme étant des liturgies politiques. C'est-à-dire que ce sont des cérémonies qui sont organisées de manière à confirmer ou à permettre à l'élu de prendre effectivement les rênes du pouvoir. Et je pense que c'est le sens qu'il faudrait accorder à cette manifestation-là.
Alors, depuis... Oui, allez-y, allez-y.
Oui, monsieur.
En fait, vous aviez la parole, mais je vous la redonne dans tous les cas en vous posant une autre question. Depuis donc cette reconnaissance par la Cour constitutionnelle hein, de la présidence de Monsieur Félix Tshisekedi, il y a bien évidemment des réactions, des félicitations, mais il n'y en a pas une grosse pluie. Y a-t-il à ce stade à se préoccuper qu'il n'y en ait pas plus que ça?
Ok, merci beaucoup. Votre question rejoint peut-être ma préoccupation à ce sujet. C'est autour de déclarations qui sont faites par l'Union africaine. Alors, ici, je tiens à préciser ceci, que l'Union africaine, en tant qu'une organisation internationale, a sa constitution, a sa Bible, qu'elle doit scrupuleusement suivre et qui doit déterminer tout son comportement. Il s'agit de sa charte. Et la charte de l'Union africaine définit clairement les objectifs que cette organisation doit poursuivre, ainsi que les principes qui président à son organisation et à son fonctionnement. Et lorsque nous parcourons, par exemple, le point 2 de l'article 3, qui définit les principes, il est dit ceci, les États membres, pour atteindre leurs objectifs, affirment solennellement le principe, et je passe directement au deuxième principe, non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Et troisième point, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État et de son droit inaliénable à une existence indépendante. Alors, étant donné que le principe, donc les élections, font partie ici des principes de souveraineté interne, l'Union africaine ferait le mieux de ne pas s'immixer, de ne pas donner ce genre d'informations de nature à bloquer la machine interne à un État. Et quand je tente un peu d'analyser, je me dis que bon, c'est vraiment absurde de constater que l'Union africaine, qui est une organisation régionale, puisse adopter un langage qui soit en contradiction avec d'autres organisations sous-régionales. Ceci revient à dire qu'il s'agit tout simplement peut-être du zèle du président de cette organisation, fort de son soutien extérieur. Alors, il pense qu'il a une ligne de conduite à imprimer à une nation qui est souveraine, alors que quand nous regardons pratiquement dans son pays, il n'y a pas de démocratie.
Professeur Jeff,
les puissances occidentales, permettez que je termine un peu mon idée, et les puissances occidentales qui le soutiennent ferment les yeux sur donc l'existence de la démocratie dans ce pays et on brandit beaucoup plus davantage le modèle de la gouvernance. Et c'est là que j'ai dit que les États africains et même aussi les puissances internationales n'agissent qu'en fonction de leurs intérêts. Là où ils trouvent leurs intérêts, ils soutiennent, et là où ils estiment que ceux qui sont élus n'offrent pas des garanties suffisantes de la protection de leurs intérêts, alors ils procèdent par des déclarations de ce genre.
Professeur Jeff Mudimbi, pensez-vous que l'Union africaine n'accepte pas l'investiture de Félix Tshisekedi ou alors qu'il y a un agenda caché?
Bon, je peux me permettre d'affirmer, sans crainte même d'être contredit, que bon, là, quand je vois les objectifs de la création d'abord de l'Union africaine, ce sont des objectifs très nobles. Mais quand nous voyons l'Union africaine sur terrain, par rapport aux différents problèmes qui se produisent, non seulement en RDC, mais partout ailleurs, je me permets encore d'ajouter que l'Union africaine, c'est une organisation vraiment inefficace.
Merci. Merci beaucoup, professeur. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Oswald Bafunyembaka, analyste politique, qui nous a rejoint en studio pendant que nous avions déjà commencé cette émission. Oswald Bafunyembaka, pensez-vous que le président, vous venez d'entendre le professeur Jeff Mudimbi, a d'abord partagé vous son idée, et puis la question suivante pensez-vous que le président rwandais, président en exercice de l'Union africaine, agit en électron libre, a-t-il un agenda caché, veut-il avoir une influence personnelle sur la République démocratique du Congo?
Oui, merci. Je salue les auditeurs de la radio Okapi et mes co-débatteurs et à eux tous, je souhaite les meilleurs voeux. Alors, pour revenir à votre question, j'aimerais dire que je me joins en partie sur les points de vue du professeur Félicien
Il y a Félicien Kabamba qui est à côté de vous et puis Jeff Mudimbi.
Oui, du professeur Jeff Mudimbi dans le sens où il a précisé que les élections sont l'un des domaines d'expression de la souveraineté des États. Mais à côté de cela, il y a le fait que la République démocratique du Congo est un État dont la géostratégie a été consacrée par la conférence de Berlin, qui à l'époque avait octroyé ou accordé à M. Léopold de la propriété du Congo actuel et avec un droit d'exploitation pour les autres grandes puissances de l'époque. Ce qui fait que historiquement déjà, la République démocratique du Congo présente plusieurs enjeux et plusieurs intérêts, autant financiers, économiques que sécuritaires, qui font que, à côté de l'aspect souveraineté, les questions qui touchent à la République démocratique du Congo, essentiellement celles qui concernent leurs dirigeants, concernent ou bien ont tendance à susciter aussi les réactions de la part des autres partenaires traditionnel et même les nouveaux partenaires de ce pays.
Alors, Oswald Bafunyembaka, permettez-moi d'intervenir. On imagine très bien que la RDC, depuis son histoire, a représente des enjeux très importants. Mais comment comprendre un peu la cacophonie de ces derniers moments, déjà un peu avant le prononcé final de la reconnaissance du nouveau président, mais aussi maintenant que ce prononcé est officiel. C'est normal que différents présidents réagissent avec des termes différents, mais là on a eu l'impression que les présidents africains déjà et d'autres présidents ne sont pas d'accord sur l'acceptation du nouveau président et que certaines organisations sous-régionales qui sont dirigées les uns par les autres expriment justement cette cacophonie.
Oui, j'étais en train de dire que les intérêts que présente la République démocratique du Congo à l'égard des autres États, que ce soit les États voisins ou de manière un peu plus étendue les États africains, même occidentaux, font que les divergences de vues sont prévisibles. On sait que les intérêts des uns ne constituent pas nécessairement ceux des autres. Et j'étais en train de les dire, pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que cette cacophonie s'explique par le fait que d'abord, il y a deux moments à distinguer. Nous avons le moment où la communauté internationale, l'Union africaine réagit par rapport à un contentieux électoral qui est né du fait de l'élection d'un candidat et qu'un autre a contesté. Et il y a un deuxième moment, le moment où les institutions nationales chargées d'accréditer ou de créditer les processus électoraux se prononcent. Ce qui fait que pendant ces deux moments, les réactions ne peuvent être que différentes. Il est tout à fait normal que l'Union africaine, encore que là je ne suis pas très à l'aise quand on parle de l'Union africaine.
Vous avez l'impression que c'est plutôt une initiative personnelle du président Kagame?
Pas nécessairement personnelle, mais nous remarquerons qu'au cours de cette session extraordinaire, il n'y a que quelques États des pays frontaliers qui ont été associés, bien entendu avec le chef de l'État de l'Éthiopie, qui est l'État qui héberge les sièges de l'Union africaine, qui ont été concernés par cette session extraordinaire. Ce qui fait que il est tout à fait osé de prétendre que les résolutions prises au cours de ces assises concernaient ou liaient l'intégralité de l'Union africaine, de tous les États de l'Union africaine. Donc je ne suis pas très à l'aise quand l'on parle sur ces points de l'Union africaine, mais bon, étant donné que vous, l'institution a été représentée par son président en exercice, qui est monsieur Paul Kagame.
Et selon vous, pourquoi une organisation qui est censée réunir de nombreux États s'est retrouvée un peu à un groupe restreint en train de prendre des décisions aussi importantes?
Nous sommes là en face d'un lobbying qui n'a pas dit son nom. C'est-à-dire, nous avions eu en face un candidat qui apparemment était issu ou soutenu par un certain lobbying et qui faisait face à un autre candidat qui, lui, apparemment, n'était pas soutenu par ce même lobbying. Et les puissances occidentales ne pouvant pas intervenir directement de peur d'être accusées d'ingérence ou d'ingérence dans les affaires intérieures des États africains, ils ont utilisé l'arme que ces États ont tendance à utiliser, l'arme qu'elles savent le plus gérer, qui est l'Union africaine, on devrait le rappeler, qui est financée en grande partie par l'Union européenne. Et aujourd'hui, il est tout à fait normal que dans ce lobbying, face à ce lobbying qui était en présence, à travers des candidats qui se présentaient aux élections, il est tout à fait admissible qu'il y ait eu des influences de part et d'autre qui ont conduit à cette déclaration. Mais non, nous sommes aujourd'hui face à une réalité. L'institution suprême, qui est la Cour constitutionnelle chargée d'accréditer les résultats et l'élection d'un candidat, s'est prononcé en attendant. Ce qui fait que il était question, la politique étant dynamique, même quand elle est internationale, il était maintenant question de savoir quel comportement adopter. Ne pas soutenir les candidats élus, ou alors ne pas soutenir les candidats élus, et c'est-à-dire créer une zone de tension sécuritaire dans la sous-région à travers un conflit post-électoral et dont l'Union africaine porterait en grande partie les chapeaux, ou alors acquiescer, quitte à ce que qu'on le voit comment évolue à celui qui est présenté comme étant l'élu. Donc c'est face à ces dilemmes-là que je pense l'Union africaine,
c'est
et
retrouvé.
Même les États occidentaux
se sont retrouvés.
Et qui explique qu'à ce jour, il y a un changement de discours de part et d'autre. Vous venez de parler de la France tout à l'heure. Et vous vous rappellerez que la France a été parmi les premières puissances à réagir quand la CENI a publié les résultats en disant qu'elle ne reconnaissait pas ces résultats. Maintenant, ces rétropédalages auxquels nous sommes en train d'assister en ce moment, se justifie justement par le fait que les temps de litiges ou de contentieux électoraux
étant passé,
nous sommes face à une situation où il faut faire avec la personne qui est là.
Merci Oswald Bafunyembaka. Professeur Félicien Kamamba, nous revenons à vous. Mais avant votre réaction, nous écoutons d'abord cette réflexion qui nous vient de Goma.
Je trouve que cette confirmation de la Cour constitutionnelle est une bonne chose qui prouve l'indépendance de nos institutions face aux ingérences internationales. Et c'est aujourd'hui que plusieurs personnes arrivent à comprendre pourquoi le président sortant refusait l'ingérence. Et l'Union africaine n'a qu'à prendre acte de la surprise de Joseph Kabila, qui vient d'écrire une histoire dans l'Afrique centrale, où plusieurs des dirigeants sont dictateurs qui veulent mourir au pouvoir. Et dans cette délégation de l'Union africaine, personne n'a une leçon de démocratie à nous donner. Et à mon avis, je trouve que nos dirigeants doivent encore revoir sur cette charte de l'Union africaine et cette mission de la délégation n'a plus de sa raison d'être en République démocratique du Congo.
Alors, prof Félicien, cet auditeur a l'impression que le moment est venu, que les faiblesses de l'Union africaine, longtemps décriées parfois à raison ou à tort, ont montré aujourd'hui de nombreuses insuffisances et qu'il faut revoir certaines choses.
Bon, alors, l'Union africaine, c'est une adjonction de États qui ont une pluralité de situations. Et donc, c'est avec cette pluralité de situations qu'il ne faut pas créer véritablement le bon. Vous avez des situations qui sont très avancées, donc des pays qui sont très avancés sur le plan de la démocratie. Vous avez des pays qui ont beaucoup de problèmes et vous avez des pays en transition. Et donc, c'est en essayant de trouver de temps en temps des situations, des solutions d'équilibre qu'on arrive à résorber certaines crises. Alors, la prise de position cette fois-ci sur la RDC a un peu étonné. Je crois que c'est la première fois que l'Union européenne en arrive jusque-là.
Africaine ?
Oui, l'Union africaine en arrive jusque-là. C'est ce qui a déclenché évidemment la réaction de notre auditeur.
Alors, parlez de jusque-là, vous parlez de jusqu'à demander à une cour constitutionnelle d'un pays de sursoir son verdict,
oui.
Ou plutôt l'initiative un peu cavalière du président en exercice de cette organisation.
C'est les deux. Et donc, vous avez là véritablement une internationalisation de la question électorale congolaise qui, évidemment, fait ressortir une dissension à quatre niveaux. Évidemment, les niveaux globaux, parce que vous avez le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est réuni pratiquement deux fois. Vous avez également au niveau régional avec l'Union africaine qui prend de position. Et je crois que ces positions ont évolué beaucoup plus rapidement. Et vous avez les niveaux sous-régionaux, notamment avec la SADC, et vous avez les niveaux nationaux. Et donc, vous avez là une production de discours sur les élections qui fait ressortir des très grandes dissensions. Et là, on s'est dit qu'il y a véritablement un problème. Et la question qui est soulevée par notre auditeur, eh bien, nous renvoie évidemment sur une question fondamentale, hein, c'est-à-dire jusqu'où l'Union africaine peut aller, évidemment, dans l'organisation des élections d'un pays membre de l'Union africaine.
Et quand on voit les différentes réactions maintenant à titre individuel, on se rend compte quand même que jusqu'ici, beaucoup plus les présidents d'Afrique australe, les présidents anglophones, ont réagi et ont apparemment eu une position commune, celle de soutenir tout de suite la nouvelle autorité congolaise désignée.
Il me semble bien que c'est le cas, mais c'est aussi cette communauté qui, bien avant les élections, avait pris la chose en main. Et donc, il y a eu un certain nombre de rencontres autour du cas congolais au niveau de la SADC. Et donc, c'est cette communauté qui a trouvé qu'elle avait un mot à dire, qu'elle avait une influence à exercer pour essayer de stabiliser la situation. Et là, c'est peut-être aussi le cas de le dire, parce que là, il y a Omar Bongo, qui est l'ancien président qui est déjà décédé, gabonais.
Le défunt président du Gabon.
Exactement, il disait, en parlant de la France, mais je ne suis pas très d'accord avec lui, parce que le Gabon n'est pas la RDC, il disait, je cite, que, en fait, l'Afrique, sans la France, ressemble à une voiture sans chauffeur. Et que la France, sans l'Afrique, ressemble à une voiture sans carburant. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et tout simplement que le sort de l'Afrique est lié à celle de la France. Mais quand vous vous remettez, ça c'est dans le cas véritablement du Gabon, quand vous remettez dans le cas de la RDC, et c'est pourquoi je veux soutenir notre ami
Bafoumimbaga,
vous sentez bien que la RDC, ce n'est pas seulement la France, la RDC, c'est plusieurs pays, évidemment, et les pays frontaliers, et les États-Unis d'Amérique, et la France, et la Belgique, aujourd'hui la Chine et autres, qui viennent et qui ont véritablement des intérêts particuliers en RDC. Et si elles n'en ont pas aujourd'hui, elles se disent, ça c'est un pays stratégique qui est au cœur de l'Afrique, il faut absolument que nous soyons présents.
Alors, professeur Félicien Kabamba, avant de donner la parole à vos autres co-débatteurs, je reviens sur cette question, pas pour m'acharner, mais pour clarifier à l'opinion congolaise, comment comprendre, faut-il craindre quelque chose désormais de la part du président en exercice actuel de l'Union africaine, vu justement cette initiative? Il est sorti comme ça dans le processus électoral, alors qu'auparavant on ne l'a pas vu prendre des initiatives, et il a pris des initiatives malheureuses que nous sommes en train de constater ici. Faut-il craindre encore d'autres initiatives de sa part ou des pressions qui l'auraient amené à prendre cette décision?
Bon, alors peut-être l'avenir nous le dira, mais il a joué un rôle assez capital ces dernières années, sur notamment la stabilité de la RDC ou l'instabilité de la RDC. Alors, quelle sera sa posture future? Évidemment, moi je ne voudrais pas anticiper sur ça, mais je crois savoir que le gouvernement congolais actuel doit avoir pris un certain nombre d'initiatives pour lui dire pourquoi il n'a pas voulu attendre la venue de la délégation de l'Union africaine. Et je crois que c'est peut-être le cas.
Merci, professeur Jeff Mudimbi. La même question, celle que je viens de poser à l'instant au professeur Félicien Kabamba. Faut-il craindre une autre pichenette du président en exercice actuel de l'Union africaine après ce qu'on a déjà vu? Allô, professeur Jeff Mudimbi? Alors, Oswald Bafoumimbaga, un peu la question que j'ai posée tout à l'heure au professeur Félicien Kabamba, c'est les anglophones qui ont pris un peu les choses en main. Le seul président en ce moment-ci, francophone, qui a dit quelque chose, c'est le président burundais, qui lui aussi a appelé à l'apaisement. Mais les francophones ont été clairs, ils ont félicité le président de la RDC élu. Comment interpréter ça?
Je dois d'abord préciser que pour ma part, je ne pense pas vraiment que la position antérieure de l'Union africaine et l'initiative privée du président en exercice de l'Union africaine que M. Paul Kagame. Parce qu'il faut rappeler que M. Paul Kagame, c'est un allié du pouvoir à ce jour. Et qu'il n'a aucun intérêt à aller à l'encontre de ce que le pouvoir, à ce qui apparaît aux intérêts de ce que le pouvoir congolais est actuellement. Maintenant, de notre part, j'étais en train de dire ici que l'Union africaine on a tendance à penser que l'Union africaine aurait été poussée par d'autres forces obscures occidentales qui aujourd'hui sont facilement, qu'on peut identifier facilement quand on lit les profils du candidat pour lesquels certains États de l'Occident ont porté leur choix. Et ça explique qu'aujourd'hui, nous pouvons penser que cette position de l'Union africaine a été soutenue par ces forces, ces lobbying occidentaux. D'un autre côté, permettez-moi de vous dire que la SADC est restée en fait le fer de lance sur lequel le pouvoir congolais actuel s'est souvent assis pour un peu faire entendre sa voix sur la scène internationale. Et cela ne s'explique pas pour rien. J'étais en train de parler d'intérêt ici. C'est que la République démocratique du Congo représente des intérêts énergétiques futurs pour les plusieurs États de la SADC. Et pour ces États-là, il est l'essentiel d'être en bon terme avec le régime qui est actuel. C'est ce qui peut expliquer, à mon sens, un peu ce soutien très soutenu. Excusez-moi pour la tautologie.
Merci Oswald Bafounembaka. Nous revenons à vous tout à l'heure pour développer vos idées. Nous retournons retrouver le professeur Jeff Mudimbi que nous avions perdu tout à l'heure. Professeur Mudimbi, vous êtes là?
Oui, je vous suis bien, monsieur.
Alors, à votre intention, ce commentaire de Goma.
Ferdinand Kindamine à partir de Goma dans la province du Nord Kivu. Je crois à mon avis que nous devons tous de saluer cette confirmation qui vient tracer une nouvelle page de l'histoire de notre pays, qui peut aussi se targuer le luxe d'avoir un ancien président en vie. La RDC étant un pays souverain n'a pas à recevoir des leçons d'autres puissances, mais plutôt elle a besoin de leur accompagnement et collaboration en vertu du principe d'égalité souveraine des États. Nous nous devons aussi de saluer cet acte combien louable du président sortant qui vient de laisser le pays sur une bonne voie de la démocratie. Et pour moi, c'est un exemple à suivre partout en Afrique où l'on continue à soutenir la thèse selon laquelle on n'organise pas les élections pour les perdre. Aux dirigeants africains d'en tirer une leçon.
Professeur Jeff Mudimbi.
Bien, merci beaucoup. Je respecte le point de vue du compatriote. C'est vrai, la RDC est un État souverain, mais je ne voudrais pas que nous puissions comprendre cette souveraineté à tort et à travers. Cette souveraineté ne doit pas signifier que la RDC est capable de vivre à vase clos, non. La RDC, en tant que système, est appelée à s'ouvrir aussi à d'autres pays, et à la communauté internationale. Alors, de cette communauté, elle subit, bien entendu, certaines influences, tout comme aussi la RDC peut aussi influencer d'autres pays qui relèvent de son environnement externe. Mais ce qui est plus gênant, c'est de constater que l'Union africaine, au lieu d'être efficace sur ses principes, sur ses objectifs, parfois, elle déborde pour toucher des faits qui ne relèvent pas de sa compétence. À titre illustratif, je reviens encore au cinquième principe de l'Union africaine qui dit ceci, que les États s'engagent à condamner sans réserve les assassinats ainsi que des activités subversives exercées par les États voisins ou tout autre État. Et ça, c'est très fondamental. La RDC connaît des problèmes sérieux, des guerres d'agression, des rébellions entretenues parfois par nos pays voisins. Et y compris même les pays du président en exercice de l'UIA. Alors, voilà autant d'éléments sur lesquels il fallait focaliser l'attention pour permettre à éradiquer tous ces groupes rebelles qui sévissent la population à l'est de la RDC, et plutôt que de chercher à toucher une matière qui relève essentiellement de la souveraineté interne d'un État. Et je parle bien de la souveraineté interne d'un État parce que je sais que celle-ci doit être envisagée non seulement sur le plan interne, mais aussi sur le plan externe. Alors, c'est vraiment une ingérence, mais on ne peut pas profiter, peut-être au nom du droit d'ingérence humanitaire pour chercher à exercer une influence par rapport aux élections telles qu'organisées en RDC. S'il y a eu des problèmes internes, je pense que l'État congolais dispose d'un certain nombre de structures chargées de régler les affaires la concernant.
Merci. Ce n'était donc pas à l'Union européenne de prendre les choses en main à ce stade-là. Une dernière réaction que nous mettons à l'analyse de Oswald Bafounembaka.
Oui, Kassani depuis Kalemi. En soi, les élections congolaises du 30 décembre 2018 ne doivent en aucun cas constituer une jurisprudence pour l'Union africaine. Cette décision de suspension des publications des résultats de nos élections n'était pas prise par l'Union africaine en tant qu'institution, mais par un groupe de présidents africains dont leurs intérêts économiques deviennent hypothétiques avec l'avènement de Félix Tshisekedi au destiné de la RDC. Et le vrai initiateur de la dite suspension n'est autre que le Paul Kagame, président rwandais, lui qui est à son quatrième mandat et dont les derniers résultats des élections présidentielles au Rwanda lui ont donné 98% des voix, un score sans précédent sur le continent africain.
Oswald Bafunyembaka.
Oui, je pense que monsieur l'auditeur Moïse Hassani rejoint la position que nous avons développée tantôt, celle de dire que c'était quand même un précédent pour ce qui est des réactions de la communauté internationale. Même le professeur Félicien Kabambala l'a rappelé, c'est que nous avons eu dans ce pays, dans ce continent, des élections qui ont été aussi critiquables, même beaucoup plus critiquables, et pour lesquelles l'Union africaine n'a pas osé hausser les tons. Alors, face à des intérêts que l'on peut imaginer, on a été surpris par cette réaction qui aussi, il faut dire, était quand même tardive. C'est que au moment où une institution comme la Cour constitutionnelle est saisie d'une question, je pense que ce n'était plus le moment pour l'Union africaine de réagir de la sorte, surtout que les questions de justice aussi tiennent à la souveraineté des États.
Alors, Oswald Bafunyembaka, nous sommes déjà au moment d'une conclusion de cette émission. Une préoccupation, beaucoup de pays ont réagi, d'autres vont probablement réagir. Un des pays très importants dans l'espace mondial n'a pas encore officiellement donné sa directive après le prononcé de la Cour constitutionnelle, les États-Unis. Pensez-vous que les États-Unis vont avoir un avis différent et de manière générale, vous répondez aussi à cette question au même moment, pensez-vous qu'après tout ça, la présidence de Étienne Tshisekedi est globalement acceptée par le monde?
Je pense que comme le professeur Jeff Mudimbia l'a dit tantôt, c'est que l'étape du prononcé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle a consacré M. Félix Tshisekedi comme cinquième président de la République démocratique du Congo. Et ce qui reste à faire, ce sont, comme il a appelé, des litiges politiques qui sont par ailleurs protocolaire et qui consistera seulement à lui donner les bâtons de commande du pays. Mais les faits sont déjà là et les réactions des États qui vont encore suivre. Et je pense que s'il est vrai que la réaction des États comme les États-Unis peuvent influencer quant au crédit du processus électoral, mais son silence aussi n'influera à rien sur le pouvoir que la présidence désormais de
Félix Tshisekedi. Merci. Merci pour cette réaction. La même question à vous, professeur Jeff Mudimbi. Pensez-vous que désormais la présidence de Félix Tshisekedi peut être considérée comme acceptée?
Je crois que s'il y a certains États qui l'ont accepté, mais il faudrait que Tshisekedi lui-même, quand il prendra le pouvoir, qu'il puisse travailler dans le sens de se faire aussi accepter par d'autres nations qui attendent encore, qui manifestent un peu de réserve. Parce que l'évidence est que il n'y a aucun pouvoir qui peut fonctionner correctement s'il n'est pas accepté aussi bien en interne qu'à l'externe. C'est vrai, il y a des pays qui manifestent un peu de réserve. D'autres ont montré pratiquement leur position hostile. Nous pensons que la manière de travailler du nouveau président fera qu'il y ait encore d'autres rétropédalages et lui permettre ainsi d'être accepté en interne comme à l'externe. C'est à ce moment-là qu'il peut véritablement fonctionner comme un système politique.
Merci, professeur. Dernière réaction, Félicien Kabamba, en quelques mots.
Non, je crois
définitivement accepté, le président Félix Tshisekedi.
Oui, je crois que le processus de fabrique de la légitimité internationale va probablement suivre le mouvement déjà enclenché par la SADC et réajusté par l'Union africaine.
Merci.
Mais ce qu'il faut peut-être dire, c'est qu'en fait, il faudra construire la prochaine stabilité du pays en tenant compte du fait que vous allez la construire avec tout le pays, notamment tous les pays frontaliers.
Merci, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.